Pour ce matin, je vous invite à ouvrir vos Bibles dans Romains chapitre 12. Romains chapitre 12. Donc, j'ai mentionné tout à l'heure les discussions dans l'Assemblée Générale. J'aimerais dire un grand merci à tous ceux qui étaient présents mercredi soir pour l'Assemblée Générale, nous permettant donc de tenir ces assemblées et surtout d'avoir participé de manière tellement agréable pour que ce soit à la fois une soirée qui est très administrative, mais qui était très agréable en même temps. Mais donc, la semaine dernière, j'avais pris l'Assemblée Générale comme une occasion de parler de ce que la Bible nous enseigne sur la manière de rendre un culte à Dieu lorsque l'Église est réunie. Ce que ça veut dire et comment, à quoi ça ressemble dans les enseignements de Paul dans 1 Corinthiens concernant l'Église réunie et le culte qu'elle rend au Seigneur. Et donc, on avait vu que ce culte est surtout basé autour de tous les membres de l'Église. C'est ça qui fait la particularité de ce culte en tant qu'Église, les chrétiens qui se réunissent pour louer Dieu. Mais on a vu également que ce culte est basé autour de la participation de chaque chrétien, que chacun d'entre nous est censé apporter sa contribution, non pas simplement au snack qu'on a en commun, mais également au culte. Puisque donc, on a vu que dans la Bible, le culte de l'Église réunie n'est pas simplement une communion ou une communication directe entre nous et Dieu, mais c'est censé aussi être un moment où nous sommes conscients d'être ensemble avec les frères et sœurs et où une partie de notre louange envers Dieu concerne l'édification les uns des autres et que nous louons Dieu en cherchant à nous édifier les uns les autres. Alors si vous vous souvenez, on a également vu la réalité de ce langage particulier, le patois de Canaan, et on a vu comment ce patois se voit dans notre compréhension des mots. On avait vu dimanche dernier notre compréhension du mot « église », mais aujourd'hui on va voir que notre compréhension des mots peut aussi influencer notre vision du culte, de ce qu'on entend par le mot culte, et de ce qu'on entend par le mot louange. Et donc, pour nous guider dans ce que nous devrions comprendre et voir derrière ces mots, on va lire ce matin Romains chapitre 12, les versets 1 et 2. Donc, Romains 12, versets 1 et 2. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Ce passage donc nous montre que l'apôtre Paul, et puisque ça fait partie de la Bible, derrière l'apôtre Paul, le Saint-Esprit, considère le culte comme bien plus qu'un acte d'adoration lorsque l'Église est réunie. Donc la semaine dernière, on a vu un aspect de ce mot culte. On a vu ce que ça veut dire lorsque nous sommes tous réunis. Mais Paul nous montre que donc il y a autre chose encore à considérer comme le culte que nous rendons à Dieu. que ce culte que nous rendons le samedi soir ou le dimanche matin n'est qu'une partie et est censé être une partie d'une vie de louange, d'une vie qui est offerte à Dieu comme un culte, comme un acte d'adoration. C'est intéressant à noter que même les auteurs des dictionnaires de langue française ont remarqué qu'il y a deux aspects dans le mot culte. J'ai regardé dans le dictionnaire Larousse pour le mot culte et on trouve, premier sens, un hommage, une honneur qui est rendue à Dieu. Et deuxième sens, l'ensemble des cérémonies par lesquelles on rend cet hommage. La semaine dernière, nous avons regardé justement ce deuxième sens, les cérémonies par lesquelles on rend hommage à Dieu. Mais au-delà de cela, il y a ce sens plus général, le fait de rendre un hommage ou une honneur à Dieu. Et rendre hommage à Dieu, Paul nous montre, est censé prendre beaucoup plus que juste quelques moments dans la semaine, que juste le samedi soir ou le dimanche matin, ou si on est particulièrement pieux, le mercredi soir aussi. À l'époque des apôtres dans le Nouveau Testament, on voit que surtout les chrétiens d'arrière-plan juifs avaient l'habitude même de se réunir tous les jours. Il y a une ou deux références dans les Actes. Acte 5, 42 par exemple, nous dit que chaque jour, dans le temple et dans les maisons, ils ne cessaient d'enseigner et d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Eux, ils se réunissaient vu qu'ils suivaient encore, entre autres, les rites qu'ils avaient en tant que juifs, ils adoraient Dieu tous les jours dans leur temps de prière, tous les jours, ils se réunissaient pour louer le Seigneur. Mais même avec cette optique-là, l'apôtre Paul trouve qu'il faut souligner le fait que le culte est encore plus qu'une réunion tous les jours. Alors, je ne sais pas déjà comment vous réagirez si on a vous annoncé qu'on allait faire des cultes tous les jours de la semaine et que vous étiez prié à venir tous les jours de la semaine. Mais l'apôtre Paul dit, si on veut rendre cet hommage, cet honneur à Dieu d'une manière qui est digne de lui être offert, même cela ne suffit pas. Il faut plus. Paul trouve que donc il est important que nous nous rendons bien compte de ce que ça veut dire d'offrir un culte, de rendre un culte raisonnable à Dieu. Et on voit que donc, d'autant plus, si vraiment le Saint-Esprit l'a poussé dans son choix d'expression, on voit à quel point Paul et le Saint-Esprit trouvent important d'imprimer cela dans notre compréhension, dans notre cœur, puisque Paul donc démarre ce chapitre avec la phrase « Je vous exhorte ». L'apôtre Paul est en train d'essayer de saisir l'attention de son auditoire en disant « Ce que je vais vous dire maintenant est vraiment important ». Et il ne se limite même pas à sa propre autorité en disant « Moi, l'apôtre Paul, je vous exhorte à faire ainsi ». Mais il dit « Je vous exhorte par les compassions de Dieu. S'il vous plaît. » Il ne peut pas s'exprimer, je pense, bien plus fortement si l'apôtre Paul avait eu l'habitude d'envoyer des emails. Il l'aurait envoyé en caractère gras, souligné, pour attirer notre attention dessus. « Je vous exhorte par les compassions de Dieu à offrir vos corps comme un sacrifice. » Donc, les passages qu'on a vus le week-end dernier dans 1 Corinthiens, nous montre que lorsque l'Église est réunie, on offre nos chants, nos prières, peut-être nos talents, nos attitudes de cœur, notre humilité les uns envers les autres, lorsque nous sommes réunis pour rendre un culte à Dieu. On offre notre louange ouverte devant les autres au Seigneur comme sacrifice, mais Paul dit, je vous demande aussi d'offrir votre corps comme un sacrifice au Seigneur. Et il décrit cela comme un culte raisonnable. Alors bien évidemment, lorsque Paul parle d'offrir son corps en sacrifice, ce n'est pas à prendre au pied de la lettre et d'offrir véritablement son corps, puisque bon, on sait que Dieu, dans tout l'Ancien Testament, nous montre qu'il déteste les sacrifices humains, bon, non pas parce que c'est assez gore, puisque bon, finalement, si vraiment on pouvait imaginer ce qui se passait au temple, c'était déjà assez terrible comme ça. Mais je pense que Dieu avait une telle horreur de sacrifice humain, entre autres, puisque un sacrifice de notre corps ne pourrait de toute façon jamais lui être acceptable, parce qu'il n'y a jamais eu qu'un seul être humain parfait, Jésus-Christ, qui d'ailleurs était le sacrifice acceptable, agréé par Dieu. Il était, dans la loi de Moïse, justement, interdit d'offrir des sacrifices imparfaits. Dieu disait qu'il avait en horreur des sacrifices imparfaits et ne les accepterait pas, même si c'était les animaux qui étaient prévus dans la loi. Lévitique, chapitre 22, les versets 20 à 22 disent « Vous n'en offrirez aucune qui est un défaut, car elle ne serait pas agréée. Si un homme offre à l'Éternel du gros ou du menu bétail en sacrifice d'action de grâce, soit par l'accomplissement d'un vœu, soit comme offrande volontaire. » Jusque-là, on pourrait dire, mais je suis les commandements. Dieu demande tel animal en sacrifice dans tel rite, c'est ce que je fais. Mais Dieu dit, la victime sera sans défaut, afin qu'elle soit agréée. Il n'y aura en elle aucun défaut. Vous n'en offrirez point qui soit aveugle, estropié ou mutilé, qui ait des ulcères, la gale ou une dartre. Vous n'en ferez point sur l'autel un sacrifice consumé par le feu devant l'Éternel. Un sacrifice offert à Dieu devait être sans défaut, parfait. Aucun de nous n'est parfait. Aucun de nous n'aurait pu simplement offrir un sacrifice ou même s'offrir lui-même en sacrifice à Dieu et être acceptable à ses yeux, puisque tous ont péché. Nous sommes tous imparfaits. Il n'y a que celui qui était prévu dès avant la fondation du monde pour être le sacrifice prévu qui pouvait être acceptable aux yeux de Dieu. C'est pour cela que Jésus a vécu de manière parfaite afin de pouvoir être ce sacrifice que Dieu accepterait. Donc ce n'est pas de cela que Paul parle. D'ailleurs, c'est pour cela que l'apôtre Paul dit que ce culte raisonnable, c'est le fait de du sacrifice de son corps, mais un sacrifice vivant. C'est bizarre, n'est-ce pas? Normalement, ces deux mots ne vont pas ensemble. Tous les agneaux, tous les bœufs auraient bien aimé que le sacrifice soit un sacrifice vivant. Normalement, le sacrifice devait mourir. Mais Paul dit, vous, puisque vous avez déjà ce sacrifice qui a été mis à mort sur la croix pour couvrir et pour enlever même votre péché. Vous, votre culte maintenant, doit être le sacrifice vivant de votre corps. On lui sacrifie notre vie tout en restant vivant. C'est ce que Paul lui-même a vécu et qu'il décrit en Galates 2, verset 20. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. C'est la définition parfaite d'un sacrifice vivant. J'ai été crucifié avec Christ, mais je vis encore. Mais si je vis encore, finalement, puisque je me suis sacrifié, j'ai été crucifié avec Christ, ce n'est plus moi qui vis. Parce que je sacrifie ma vie tout en restant en vie. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Si Paul parle de sacrifice, c'est parce qu'il veut souligner le fait que notre culte, notre offrande offerte à Dieu doit être totale. Tout comme le sacrifice était total. Il parle de sacrifice, puisque ce sacrifice doit nous coûter quelque chose. Tout comme les sacrifices prévus dans la loi coûtaient quelque chose à celui qui l'offrait. Vous savez, ce n'était pas rien de devoir offrir un sacrifice à Dieu. Parfois, ça allait coûter un budget énorme pour les personnes qui devaient l'offrir, à tel point que Dieu avait même prévu des sacrifices spécifiques pour les pauvres qui ne pouvaient pas acheter un agneau ou un bœuf pour leur sacrifice. C'est d'ailleurs comme ça que, après la naissance de Jésus, Marie et Joseph ont offert des pigeons comme sacrifice, puisqu'il y avait ce sacrifice prévu pour ceux qui étaient trop pauvres pour offrir autre chose. Parce qu'un sacrifice, ça coûte. Dans notre cas, si on offre ce culte raisonnable à Dieu, ce sacrifice de notre corps, sacrifice vivant, cela va nous coûter le contrôle de notre vie. Ça va nous coûter au niveau de notre comportement, au niveau de notre style de vie. On va sacrifier ce que ce monde appellerait un comportement normal, ou un comportement naturel, un style de vie raisonnable. Justement pour cela que l'apôtre Paul continue dans le début du verset 2 en disant « Ne vous conformez pas au siècle présent. » Ce sacrifice, c'est le fait de ne plus être normal du point de vue du monde. D'avoir un autre raisonnement. Dans Éphésiens 2, versets 1 à 3, nous trouvons une bonne définition de ce que Paul considérait comme le siècle présent auquel on ne doit pas se conformer. Éphésiens 2, verset 1, « Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde. » C'est ça que Paul entend par le siècle présent. Le train de ce monde. La manière que ce monde nous dit est normale comme manière de vivre. Ou surtout, on veille sur soi-même. On se met soi-même en avant. On se fait du bien. On s'écoute. On écoute ses émotions. On fait ce qui va nous plaire. On fait ce qui va nous donner de bonnes sensations. On fait ce qui nous semble intelligent. Vous étiez morts parce que autrefois vous marchiez selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. pour ça que Paul nous dit de ne pas nous conformer au siècle présent, puisqu'il dit le train de ce monde, en réalité, c'est de suivre les voies du prince de la puissance de l'air. C'est lui, l'esprit, qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre. Et nous vivions autrefois, puis il va expliquer quel est le train de ce monde, inspiré par le prince de la puissance de l'air, cet esprit qui agit dans les fils de la rébellion, ce siècle présent, nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair. On fait ce qui nous plaît, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Soit on se laisse mener au bout du nez par nos émotions, par nos sensations, par ce qui a l'air de nous faire du bien, de nous plaire. Soit, peut-être, on pousse le bouchon jusqu'à être très intellectuel et se laisser guider par plutôt ses pensées. Mais Paul dit, ça revient au même. Et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Pour ça que Paul dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Pour ça que Pierre va dire dans Actes 2, verset 40, sauvez-vous de cette génération perverse. C'est la même idée. Ce siècle présent, le train de ce monde, cette génération perverse. C'est le sacrifice donc de ce que le monde autour de nous, de ce que cette génération trouve raisonnable comme comportement basé sur les avis et les mœurs du siècle présent. On le voit partout autour de nous. Ce qui, à un certain moment, était considéré mauvais, devient bon. Et quelqu'un de bien va faire ce qui, dans d'autres moments, a été considéré comme quelque chose de mauvais, et ainsi de suite. Paul dit que donc nous sacrifions notre vie en refusant de nous conformer au siècle présent, et il dit que cela va être un culte raisonnable offert à Dieu. Raisonnable, puisque finalement, même si c'est déraisonnable pour le monde dans lequel nous vivons, c'est raisonnable selon la sagesse de Dieu. C'est un peu ce que Paul dit en introduction à sa première lettre aux Corinthiens, quand il dit, nous prêchons Christ crucifié, une folie pour le siècle présent, une folie pour le monde dans lequel nous vivons, mais la vraie sagesse de Dieu pour ceux qui sont sauvés. Donc, culte raisonnable, tout sauf raisonnable pour le siècle présent, pour le monde dans lequel nous vivons, mais raisonnable parce que c'est le seul moyen qui prend en compte la rédemption que nous avons reçue en Jésus-Christ. Si nous croyons que Dieu nous a rachetés, nous croyons qu'il est devenu propriétaire de notre vie. Si il a payé ce prix pour nous, ça devient raisonnable de penser que notre vie lui appartient, que c'est lui qui peut en faire ce qu'il veut. Comme dit Paul, que si on continue à vivre, finalement ce n'est plus nous, ce n'est plus pour nous exprimer nous, c'est pour que Christ puisse s'exprimer à travers nous parce qu'il nous a rachetés. Et si ce sacrifice est entier, si Paul dit « sacrifiez votre corps », c'est parce que Dieu nous a rachetés entièrement, y compris notre corps, pour que tout ce que nous faisions dans notre corps devient son souci à lui, devient son zone d'intérêt Et nous sommes là pour faire ce qui lui plaît et ce que lui, il voudrait faire à travers nous. La rédemption est totale. Donc le culte et le sacrifice doivent être total. Le sacrifice vivant de notre vie, de notre corps, est donc un acte de culte raisonnable, puisque nous prenons en compte ce que Dieu a fait pour nous. Autrement, le Nouveau Testament nous dit, c'est que finalement, nous ne croyons pas au fond que Dieu nous a rachetés, que nous sommes à lui. Nous voulons peut-être éviter un châtiment futur, mais pour le présent, on considère c'est toujours moi le chef de ma vie. Sacrifice également qui devient un acte de culte, même lorsque l'Église n'est pas réunie, puisque ma rédemption ne concerne pas uniquement les moments où l'Église est réunie. Heureusement, lorsque on va partir tout à l'heure, nous serons toujours rachetés. Nous serons toujours sauvés. On ne va pas laisser notre salut ici dans la salle. Mais où qu'on soit, on est sauvé, on est racheté. Et donc nous pouvons rendre ce culte raisonnable à Dieu qui prend tous ces éléments en compte. Ce sacrifice donc de notre corps est un culte raisonnable, un culte qui comporte, on pourrait dire, une louange raisonnable. Puisque donc, il est aussi important d'avoir une bonne définition de ce qui est la louange, de ce que ça implique de louer Dieu. Je me souviens quand on était à l'école biblique, une fois, il y avait toute une discussion entre certains étudiants sur justement, qu'est-ce que la louange ? Et il y avait certains étudiants qui disaient que la louange ne pouvait être que le fait de chanter certains chants avec un certain style de musique généralement, que c'est ça, louer Dieu, c'est ça la louange, et que si on ne faisait pas ça, on n'était pas en train de louer Dieu. C'est un peu l'idée qu'on retrouve, on a signalé la semaine dernière, dans notre patois de Canaan, quand on parle de nos temps de louange. On se comprend entre nous. Mais finalement, la louange est beaucoup plus vaste que juste le fait de chanter des cantiques ensemble. On a vu mercredi soir dans l'Assemblée Générale ce passage dans 1 Corinthiens chapitre 10, quand l'apôtre Paul va dire « Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. » Et finalement, faire les choses pour la gloire de Dieu, ça revient à louer Dieu. On loue Dieu lorsqu'on cherche à le glorifier. Donc Paul dit, le fait de manger doit devenir un acte de louange. Le fait de boire doit devenir un acte de louange envers Dieu. Il dit d'ailleurs, peu importe ce que vous faites, c'est censé être fait à la gloire de Dieu et donc être un moyen de louer Dieu. Et c'est là où donc, je disais tout à l'heure, le culte que nous rendons lorsque nous sommes réunis ensemble en tant qu'Église est censé être le reflet de notre vie en dehors des moments de réunion. Ce n'est pas censé être un parenthèse qui est en distinction complète avec le reste de notre vie. Attention à l'hypocrisie lorsque les paroles que nous disons, que nous chantons dans nos cultes réunis ensemble ne correspondent pas à ce que nous vivons. Et donc, Jacques nous dirait, ne correspondent pas à ce que nous croyons. Puisque dans Jacques chapitre 2, il nous dit que notre comportement va révéler ce que nous croyons réellement. Si nous croyons quelque chose, ça se verra dans notre manière de vivre. Vous savez, la Bible est remplie, surtout dans l'Ancien Testament, de gens qui rendaient un culte hypocrite, qui gardaient le langage, qui gardaient les actes, qui gardaient les formes, qui gardaient le culte tel que Dieu l'avait prévu. Mais c'était hypocrite puisque Dieu disait « Je suis là sur leurs lèvres ». Ils sont prêts, lorsqu'il le faut, à dire les mots qu'il faut, mais leur cœur est loin de moi. Le cœur se verra surtout en dehors de nos réunions. C'était justement le fondement aussi des critiques de Jésus et de Jean-Baptiste vis-à-vis des pharisiens. En Matthieu chapitre 3, versets 7 et 8, lorsque Jean-Baptiste voit venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadduciens, il leur dit « Race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Produisez donc du fruit digne de la repentance. » Jésus et Jean-Baptiste pointaient leur vie en dehors du culte. Et disait, le problème se trouve là. Sur certains aspects rituels, ils étaient impeccables. Mais leur cœur était loin du Seigneur. Cela ne veut pas dire, et ne doit pas être utilisé comme excuse pour dire, bon, dans ce cas-là, je reste silencieux dans le culte, je ne participe pas, puisque donc je ne voudrais pas que mes paroles ne correspondent pas à la vie que je mène en dehors des réunions. C'est au contraire un défi qui doit nous inspirer, nous encourager, au contraire, à changer notre comportement en dehors des réunions pour que notre vie corresponde aux paroles vraies, aux paroles justes qui sont exprimées lorsque nous sommes réunis dans le culte. Ce n'est pas qu'on transforme le culte pour correspondre à notre style de vie. On doit transformer notre style de vie pour correspondre au culte. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais, dit Paul, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Le renouvellement de notre intelligence, lorsque c'est la parole de Dieu qui nous montre et qui nous informe sur ce qui est vrai, et ce qui ne l'est pas, sur ce qui est bien et sur ce qui ne l'est pas. Lorsque c'est la parole de Dieu qui transforme notre pensée, nous passons par ce renouvellement de l'intelligence pour être transformé dans notre vie. Et finalement, cette transformation devient un acte de louange et donc un culte. Si on se replonge à nouveau dans le dictionnaire, cette fois-ci pour variété dans le dictionnaire Le Robert, la définition de la louange, c'est un témoignage d'admiration ou de grande estime. Donc notre style de vie peut très facilement et doit facilement devenir un acte de louange, un témoignage de notre admiration, de notre grande estime pour Dieu. Ce renouvellement de l'intelligence qui change nos pensées, nos valeurs, démarre un processus de louange en nous, puisque en acceptant que les voies de Dieu sont justes, que les paroles de Dieu sont justes, nous reconnaissons par cela que c'est lui qui est Dieu, c'est lui qui est Seigneur. Lorsque Dieu nous dit quelque chose et cela ne correspond pas à ma manière de vivre, soit je vais exprimer mon admiration de moi-même, et mon estime pour moi-même en disant « Ah ben si moi je pense ça, c'est forcément vrai, c'est forcément juste. » Ou je vais dire « Ah ben c'est lui qui est Dieu. » Donc si lui, il dit quelque chose avec lequel je ne suis pas d'accord, c'est forcément moi qui ai tort. Et lui qui a raison. Et donc changer ma manière de penser, laisser Dieu renouveler mon intelligence pour me transformer, devient un acte de louange puisque c'est un témoignage de l'admiration ou de la grande estime que j'ai pour Dieu. Je dis, mais c'est lui qui est Dieu. Donc forcément, j'ai besoin de changer mes valeurs. J'ai besoin de changer mes opinions. J'ai besoin de changer mon comportement. Puisque je suis convaincu que ce que lui, il me dit, doit être juste. Et puis le fait de changer mon comportement va renforcer ce louange. Puisque c'est une manière de dire, je crois suffisamment que Dieu est Dieu, que Dieu dit vrai, que ses voies sont les meilleures, que je change ma vie pour me mettre en diapason avec lui. Ésaïe 55, versets 8 et 9 nous dit « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voies ne sont pas mes voies, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voies sont élevées au-dessus de vos voies, et mes pensées au-dessus de vos pensées. » Un verset biblique, c'est facile à lire, c'est facile même, avec un peu d'effort, à apprendre par cœur. Mais est-ce que c'est ce que nous vivons? Est-ce que ça se reflète dans la pratique de ma vie? Est-ce que ma vie proclame que les pensées de Dieu sont autant au-dessus de mes pensées que les cieux le sont au-dessus de la terre? Si oui, si c'est ce que je crois réellement, je vais remplacer mes pensées et mes voix par ces pensées et ses voix. Finalement, c'est peu surprenant que l'apôtre Paul appelle cela un culte raisonnable, puisque c'est un culte qui prend en compte toutes les réalités que Dieu nous montre dans sa parole et qui les applique dans notre vie, pour que nos vies soient transformées, pour que nos vies soient un acte d'adoration, un témoignage de notre admiration ou de notre grande estime pour Dieu, et que donc notre vie soit un culte raisonnable. J'avais terminé le week-end dernier sur ce verset en hébreu qui parle de ne pas abandonner nos assemblées, ne pas abandonner le fait de se réunir ensemble pour offrir un culte à Dieu. Donc, continuons, restons dans cet acte d'offrir un culte à Dieu par nos prières, par nos chants, par nos passages bibliques, par les dons de l'Esprit, lorsque nous sommes réunis ensemble. Mais faisons de sorte également que ce culte que nous rendons en tant qu'Église soit l'extension du culte raisonnable que nous offrons à Dieu lorsque l'Église n'est pas réunie. Que notre culte ensemble soit conforme à notre vie, soit le reflet de notre vie. Que nous puissions offrir nos corps à Dieu comme un sacrifice vivant, saint, agréable, ce qui sera de notre part un culte raisonnable. Je propose qu'on termine dans la prière et qu'on demande au Seigneur de nous bénir par sa présence, d'imprimer justement sa parole, ses pensées, ses voix en nous, et engageons-nous devant lui à se laisser transformer par le renouvellement de notre intelligence pour offrir notre vie, notre corps en sacrifice vivant.